Chapitre 62. Croisil, l'homme d'affaires qu'avait évoqué la veuve, avait investi massivement dans les parcs d'activités commerciales et à la fin des années 1980, dans les vignobles français, devenant multimillionnaire. Il avait plus de 75 ans et n'avait, semble-t-il, toujours pas pris sa retraite. Dans le moteur de recherche, son nom n'était aucunement associé à celui de Chmielnik. Dans son SMS pour Paul, Gabriel avait omis de mentionner qu'il allait faire un petit détour nocturne chez l'entrepreneur, ainsi qu'un passage à Sceaux-des-Bains. Hors de question de laisser des procédures judiciaires le ralentir. Il voulait avancer seul, sans qu'on lui mette des bâtons dans les roues. La maison de Croisil, en campagne proche de Bruxelles, était de style plus sobre que celle du peintre, mais non moins imposante, en retrait de la rue, sans voisins, éclairée par des lampes à gaz réparties dans un vaste jardin. Ce soir, visiblement, il recevait. Deux Porsche, une Audi et une Bentley d'une largeur de paquebot étaient garés dans l'allée. Il arrêta sa voiture le long d'un muret, au cœur du hameau, et alla directement sonner à la porte d'entrée, sans prendre la peine de réajuster son blouson en cuir. Il en était conscient. Il ressemblait à une espèce de videur peu recommandable, avec une gueule ravagée par la fatigue, mais peu importait. Il dut s'y prendre à plusieurs reprises pour que Croisil en personne vienne lui ouvrir, un cigare vissé au coin des lèvres. Costume cravate, cheveux gris gominés vers l'arrière, et le teint hâlé d'écuriste. Il le reluqua d'un œil brillant. « Qui êtes-vous ? »
« Un père à la recherche de sa fille. J'aimerais vous parler d'Henri Chmielnik. »
Le propriétaire fronça ses sourcils broussailleux.
« Chmielnik ? Je crois bien qu'il est mort. Mais vous avez vu l'heure ? Je vous conseille de ficher le camp de ma propriété.
Vous le fréquentiez ?»
L'homme se recula pour fermer le battant, mais Gabriel repoussa cette masse de bois sans ménagement. Lorsqu'il franchit le seuil, il vit le visage de Croisil blanchir comme s'il s'était pris un sac de farine sur la tête. Gabriel dominait d'une vingtaine de centimètres ce maigrichon au cou d'oisillon, aux mains squelettiques et aux yeux d'un noir pétrole. En retrait, dans le salon, trois individus tout aussi grisonnants étaient assis autour d'une table de poker dans un nuage de fumée.
« Fichez le camp de chez moi !» répéta-t-il. « Ou j'appelle la police !»
Gabriel lui plaqua sous le nez l'écran de son téléphone avec la photo de la peinture de Julie et Mathilde.
« Vous reconnaissez ?»
Croisil se tourna brièvement vers ses acolytes. L'un des vieux s'était levé.
« Appelle la police !»
Gabriel était désormais à deux pas de la pièce. Il tendit un index menaçant devant lui.
« Faites ça et je vous écrase la tête sur vos jetons. Rasseyez-vous. D'ici quelques minutes, vous m'aurez déjà oublié si vous ne faites pas de conneries. »
Gabriel y allait au culot et ça marchait. Le vieux lui obéit, alors que les autres ne bougeaient pas d'un cil.
« Alors, ce tableau, ça ne me dit rien du tout !»
répliqua Croisil d'un ton froid.
« Qu'est-ce que vous voulez, bon sang ?»« Voir la toile d'Arvel Gaessa accrochée dans votre bureau !»
La paupière droite de Croisil s'était mise à tressauter dans un réflexe.
« Pourquoi ? Que se passe-t-il avec cette toile ?»«
Vous ne le savez pas !»
Il secoua la tête en signe d'incompréhension. Le front de Gabriel s'était mis à suer. Il sentait le démon de la colère le posséder. Son allure devait être effrayante, car Croisil intima à ses invités de conserver leur calme, leur indiquant qu'il s'agissait d'un malentendu que tout serait vite réglé. Gabriel et lui traversèrent alors l'immense pièce au plafond haut et sculpté, aux murs ornés de tableaux de maître, avant de pénétrer dans le bureau au style lourd, surchargé d'objets hétéroclites, statuettes, masques, instruments d'astronomie. Croisil pointa le mur, à droite de la bibliothèque.
« Elle est là, votre peinture !»
Le cadre était à hauteur d'homme, parfaitement mis en valeur par deux lumières douces. Il s'agissait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, deux grands yeux ronds pleins d'effroi. Une partie de son menton était décharnée, ainsi que sa joue droite. Son cou se déployait en un réseau de tendons et de muscles rougeâtres, comme si une enzyme avait commencé à le digérer. Gabriel ne le reconnut pas. Il ne l'avait vu nulle part dans ses pages de disparus, mais cela ne signifiait rien. En arrière-plan, de nouveau, les racines d'arbres suspendues à une voûte, les murs de pierre. Il s'approcha et caressa la matière. L'œuvre était bien signée A.G. Il gratta. Dans son dos, Croisil protesta. Gabriel lui colla ses doigts frottés les uns contre les autres sous les narines.
Vous reconnaissez la texture? L'odeur?
Arrêtez, qu'est-ce...
Gabriel l'agrippa par la veste.
Que savez-vous sur ce tableau? À qui appartient ce visage?
Lança-t-il à bout de patience. Avec son col de chemise serré, on aurait dit que la tête du vieux allait sauter tel un bouchon de champagne.
Je n'en sais rien, bon Dieu! Avec Chmielnik, on a fait du business il y a des années. C'était un redoutable homme d'affaires que j'appréciais. On a gardé le contact, on dînait ensemble 2 ou 3 fois par an. Un jour, il m'a confié qu'il était aussi peintre et m'a offert cette toile. Il n'y a rien d'autre à ajouter.
Gabriel le relâcha brusquement.
Il vous l'a offerte. Vous ne l'avez pas choisi.
Pas acheté.
Il est venu, il vous l'a offerte comme ça.
Exactement. C'était un cadeau.
Gabriel avait envie de lui fracasser le crâne. Chmielnik étant mort, Croisil ne parlerait pas. À moins qu'il ne sache vraiment rien. L'industriel prenait peut-être un plaisir pervers à distribuer des visages de personnes kidnappées à de riches connaissances. Il se dirigea vers le bureau, tira le fauteuil en cuir et s'y installa. Il désigna le tableau 3 mètres devant lui. Croisil était immobile.
J'aime bien l'éclairage. Un sacré beau dispositif pour un tableau que vous n'avez même pas choisi. Et ce n'est pas très raccord avec le reste de la déco, hein? Les longues vues en cuivre, les belles statues en ébène. Pourquoi vous n'avez pas fichu cette horreur dans un coin? Que lui trouvez-vous de si extraordinaire pour l'accrocher pile en face de vous?
Visiblement, les subtilités de l'art vous échappent. Je n'ai rien d'autre à vous dire, je ne comprends pas ce que vous voulez.
Gabriel se redressa et revint vers lui, menaçant. Je crois que, au contraire, vous savez parfaitement ce que je veux.
Vous voyez, elle, c'est ma fille, expliqua-t-il en sortant de nouveau son téléphone.
Ma fille qui a disparu le 8 mars 2008. Et l'autre à côté a subi le même sort, mais en 2011. Sa mère est au fond du gouffre, à 2 doigts du suicide.
Il rapprocha l'écran de Croisil jusqu'à l'écraser sur son front.
Chmielnik, ce putain de pervers avec qui vous preniez du bon temps a peint ce tableau avec leur sang. Leur sang, vous saisissez? Et il a fait pareil avec ce gosse que vous matez certainement de longues minutes chaque jour. Ce gosse que des salopards ont arraché à ses parents.
Gabriel, au fur et à mesure, avait acculé Croisil contre la bibliothèque.
À quoi vous jouez quand vous êtes seul dans cette pièce? Vous vous astiquez? Vous fantasmez sur le destin tragique de tous ces mômes? Vous vous sentez tout puissant parce que quelque part vous le possédez? Vous savez des choses? Dites-moi, bordel, ce que Chmielnik leur a fait. Dites-moi où ils sont.
L'homme d'affaires secouait vivement la tête.
Vous êtes fou,
murmura-t-il.
Complètement fou.
Une voix chevrotante s'éleva dans le dos de Gabriel.
J'ai appelé la police. Ils arrivent.
Un vieux se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa main tremblait sur le chambranle. Gabriel adressa un dernier regard assassin à Croisil et alla décrocher le cadre. Aucun d'entre eux ne chercha à s'interposer. Le perturbateur de leur soirée était-elle un taureau fou dans une arène?
Bientôt vous allez passer à la caisse,
prévint Gabriel.
Vous allez payer jusqu'à la fin de vos jours, vous et toutes les raclures de Richard de votre trempe.
Tableau sous le bras, il jeta un rapide coup d'œil à la bibliothèque. Seulement des livres reliés en cuir, aucun bouquin de Caleb Traskman. Il traversa le salon et disparut aussi subitement qu'il avait débarqué. Personne ne lui courut après.